Alfred Dreyfus, 5 années de ma vie. Chapitre 8. Les journées s'écoulèrent ainsi, tristes et douloureuses, pendant la première période de ma captivité aux îles du Salut. Je recevais chaque trimestre quelques livres qui m'étaient adressés par ma femme, mais je n'avais aucune occupation physique. Les nuits, surtout qui, sous ce climat, sont presque invariablement de 12 heures, étaient atrocement longues. Dans le courant de juillet 1895, j'avais fait une demande pour que l'on me permît d'acheter quelques outils de menuiserie. Un refus catégorique me fut opposé par le directeur du service pénitentiaire, sous prétexte que les outils pouvaient constituer des moyens d'évasion. Je ne me vois pas m'évadant sur un rabot d'une île où j'étais gardé à vue nuit et jour. À l'automne de 1896, le régime déjà si sévère auquel j'étais soumis devint plus rigoureux encore. Le 4 septembre 1896, l'administration pénitentiaire reçut de M. André Lebon, ministre des colonies, l'ordre de me maintenir jusqu'à nouvel ordre, enfermé dans ma case nuit et jour, avec double boucle de nuit, d'entourer le périmètre du promenoir autour de ma case d'une solide palissade, avec une sentinelle intérieure, en plus du surveillant de garde dans ma case. En outre, on suspendit la remise des lettres et des envois qui m'étaient adressés. La transmission de ma correspondance ne devait plus être opérée qu'en copie. Conformément à ces instructions, je fus enfermé nuit et jour dans ma case sans même une minute de promenade. Cette réclusion absolue fut maintenue durant tout le temps que nécessita l'arrivée des bois et la construction de la palissade, c'est-à-dire environ 2 mois et demi. La chaleur fut cette année-là particulièrement torride. Elle était si grande dans la case que les surveillants de garde firent plainte sur plainte, déclarant qu'ils sentaient leur crâne éclater. On dut, sur leur réclamation, arroser chaque jour l'intérieur du tambour accolé à ma case dans lequel ils se tenaient. Quant à moi, je fondais littéralement. Image plus grande. À dater du 6 septembre, je fus mise à la double boucle de nuit, et ce supplice, qui dura près de 2 mois, consista dans les mesures suivantes. 2 fers en forme d'U, AA, furent fixés par leur partie inférieure au côté du lit. Dans ces fers, s'engageait une barre en fer B à laquelle étaient fixées 2 boucles CC. À l'extrémité de la barre, d'un côté un plein terminal D, de l'autre un cadenas E, de telle sorte que la barre était fixée au fer AA et par suite au lit. Quand les pieds étaient donc engagés dans les 2 boucles, je n'avais plus la possibilité de remuer. J'étais invariablement fixé au lit. Le supplice était horrible, surtout par ces nuits torrides. Bientôt, les boucles très serrées aux chevilles me blessèrent. La case fut entourée d'une palissade de 2,50 m de hauteur, distante de 1,50 m environ de la case. Cette palissade dépassait de beaucoup en hauteur les petites fenêtres grillées de la case qui étaient à environ 1 mètre au-dessus du sol, de telle sorte que je n'eus plus ni air ni lumière dans l'intérieur de la case. En dehors de cette première palissade complètement jointe, qui était une palissade de défense, fut construite une 2e palissade non moins jointe, d'égale hauteur, et qui, comme la première, me cachait toute vue du dehors. Dans l'intérieur de cette dernière palissade, qui constituait ainsi un petit promenoir, je reçus, après environ 3 mois de réclusion absolue, l'autorisation de circuler dans le jour, sous un soleil ardent, sans trace d'ombre, et toujours accompagné par le surveillant de garde. Jusqu'au 4 septembre 1896, je n'avais occupé ma case que la nuit et aux heures trop chaudes de la journée. En dehors des heures que je consacrais à de petites promenades dans les 200 mètres de l'île qui m'avaient été réservées, je m'asseyais souvent à l'ombre de la case face à la mer. Et si mes pensées étaient tristes et obsédantes, si souvent je grelottais la fièvre, j'avais du moins cette consolation, dans mon extrême douleur, de voir la mer, de laisser errer ma vue sur les flots, de sentir souvent mon âme se soulever, les jours de tempête, avec les ondes furieuses. À partir du 4 septembre 1896, plus rien. La vue de la mer, du dehors, m'est interdite. J'étouffe dans ma case, où je n'ai plus ni air ni lumière. Uniquement le promenoir entre 2 palissades dans la journée, en plein soleil, sans apparence d'ombre. Dans le courant du mois de juin 1896, j'avais eu de violents accès de fièvre, suivis de congestion cérébrale. Dans une de ces nuits tragiques de douleur et de fièvre, je voulus me lever. Je tombai comme une masse sur le sol de la case et restai évanoui. Le surveillant de garde dut me relever inanimé et couvert de sang. Les jours qui suivirent, l'estomac se refusa à toute nourriture. Je dépéris beaucoup et ma santé fut fortement ébranlée. J'étais encore extrêmement faible quand furent prises les mesures arbitraires et inhumaines du mois de septembre 1896. Aussi fut-ce une nouvelle chute. C'est dans ces conditions que je crus ne pas pouvoir aller plus loin. Quelle que soit la volonté et l'énergie d'un homme, les forces humaines ont une limite, et celle-ci était dépassée. Aussi arrêtai-je mon journal avec mission de le remettre à ma femme. D'ailleurs, peu de jours après, tous mes papiers furent saisis. Je n'eus plus en ma possession qu'une quantité limitée de papiers, papiers numérotés et paraffés comme depuis le premier jour, mais que je dus remettre aussitôt qu'il était écrit, avant de pouvoir en recevoir d'autres. Mais dans une de ces longues nuits de torture, où, cloué sur mon lit, le sommeil fuyant mes paupières, je cherchais l'étoile directrice, le guide des instants de suprême résolution, je la vis tout à coup lumineuse, luire devant moi et me dicter mon devoir. Aujourd'hui, moins que jamais, tu n'as le droit de déserter ton poste. Moins que jamais, tu n'as le droit d'abréger, fût-ce d'un seul jour, ta vie triste et misérable. Quels que soient les supplices qu'on t'inflige, il faut que tu marches. Jusqu'à ce qu'on te jette dans la tombe, il faut que tu restes debout devant tes bourreaux. Tant que tu auras ombre de force, épave vivante à maintenir sous leurs yeux, par l'intangible souveraineté de l'âme. Dès lors, je pris la résolution de lutter plus énergiquement que jamais. Dans la période qui s'écoula ensuite, depuis le mois de septembre 1896, jusqu'en août 1897, la surveillance directe devint chaque jour plus rigoureuse. Le nombre de surveillants avait été au début, outre le surveillant-chef, de 5 surveillants. Il fut porté à 6, puis à 10 surveillants dans le courant de l'année 1897. Il fut encore augmenté plus tard. Jusqu'en 1896, je reçus des livres chaque trimestre, envoyée par ma femme. À dater du mois de septembre 1896, ces envois furent supprimés. On me prévint, il est vrai, que j'étais autorisée à faire chaque trimestre une demande de 20 livres qui seraient achetés à mes frais. Je fis une première demande qui ne me parvint que plusieurs mois après, une seconde qui mit encore un plus grand nombre de mois pour me parvenir, enfin une troisième à laquelle il ne fut jamais répondu. Dès lors, je dus vivre sur le fonds qui s'était créé avec les premiers envois reçus. Ce fonds comprenait, outre un certain nombre de revues littéraires et scientifiques, quelques livres de lecture courante, les études sur la littérature contemporaine de Scherer, l'histoire de la littérature de Lançon, quelques œuvres de Balzac, les mémoires de Barras, la petite critique de Janin, une histoire de la peinture, l'histoire des Francs, les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, les tomes 7 et 8 de l'histoire générale du IVe siècle jusqu'à nos jours de Lavis et Rimbaud, les essais de Montaigne et surtout les œuvres complètes de Shakespeare. Je n'ai jamais aussi bien compris le grand écrivain que durant cette période si tragique. Je le lus et le relus. Hamlet et le roi Lear m'apparurent avec toute leur puissance dramatique. Je refis aussi des sciences, et, ne possédant pas les livres nécessaires, je dus reconstituer les éléments du calcul intégral et différentiel. J'obligeais ainsi, par moments, trop courts, hélas, mon cerveau à s'absorber dans un ordre d'idées tout différent de celui qu'il occupait habituellement. Mes livres, au bout de peu de temps, furent en assez piteux état. Les bêtes y établissaient domicile, les rongeaient et y déposaient leurs œufs. Les animaux pullulaient dans ma case, les moustiques au moment de la saison des pluies, les fourmis en toute saison, en nombre si considérable que j'avais dû isoler ma table en plaçant les pieds dans de vieilles boîtes de conserve remplies de pétrole. L'eau avait été insuffisante, car les fourmis formaient chaîne à la surface, et dès que la chaîne était complète, les fourmis traversaient comme sur un pont. La bête la plus malfaisante était l'araignée crabe. Sa morsure est venimeuse. L'araignée crabe est un animal dont le corps a l'aspect de celui du crabe, les pattes la longueur de celle de l'araignée. L'ensemble est de la grosseur d'une main d'homme. J'en tuai de nombreuses dans ma case où elles pénétraient par l'intervalle entre la toiture et les murs. En résumé, après les coups de massue du mois de septembre 1896, j'eus un moment de détresse, puis un relèvement d'énergie morale, l'âme se dressant plus pure et plus hautaine dans ses revendications. En octobre, j'écrivis à ma femme. Île du Salut, 3 octobre 1896. Je n'ai pas encore reçu le courrier du mois d'août. Je veux cependant t'écrire quelques mots et t'envoyer l'écho de mon immense affection. Je t'ai écrit le mois dernier et t'ai ouvert mon cœur, dit toutes mes pensées. Je ne saurais rien y ajouter. J'espère qu'on t'apportera ce concours que tu as le devoir de demander. Et je ne puis souhaiter qu'une chose, c'est d'apprendre bientôt que la lumière est faite sur cette horrible affaire. Ce que je veux te dire encore, c'est qu'il ne faut pas que l'horrible acuité de nos souffrances dénature nos cœurs. Il faut que notre nom, que nous-mêmes, sortions de cette horrible aventure tels que nous étions quand on nous y a fait entrer. Mais devant de telles souffrances, il faut que les courages grandissent, non pour récriminer ni pour se plaindre, mais pour demander, vouloir enfin, la lumière sur cet horrible drame, démasquer celui ou ceux dont nous sommes les victimes. Si je t'écris souvent et si longuement, c'est qu'il y a une chose que je voudrais pouvoir exprimer mieux que je ne le fais. C'est que, fort de nos consciences, il faut que nous nous élevions au-dessus de tout, sans gémir, sans nous plaindre, en gens de cœur qui souffrent le martyre, qui peuvent y succomber, en faisant simplement notre devoir. Et ce devoir, si, pour moi, il est de tenir debout tant que je pourrai, il est pour toi, pour vous tous, de vouloir la lumière sur ce lugubre drame, en faisant appel à tous les concours. Car vraiment, je doute que des êtres humains aient jamais souffert plus que nous. Île du Salut, 5 octobre 1896. Je viens de recevoir à l'instant ta chère et bonne lettre du mois d'août, ainsi que toutes celles de la famille. Et c'est sous l'impression profonde non seulement des souffrances que nous endurons tous, mais de la douleur que je t'ai causée par ma lettre du 6 juillet que je t'écris. Ah, chère Lucie, comme l'être humain est faible, comme il est parfois lâche et égoïste. Ainsi que je te l'ai dit, je crois, j'étais à ce moment en proie aux fièvres qui me brûlaient corps et cerveau, moi dont l'esprit est si frappé, dont les tortures sont si grandes. Et alors, dans cette détresse profonde de tout l'être, où l'on aurait besoin d'une main amie, d'une figure sympathique, halluciné par la fièvre, par la douleur, ne recevant pas ton courrier, il a fallu que je te jette mes cris de douleur que je ne pouvais exhaler ailleurs. Je me ressaisis, d'ailleurs. Je suis redevenue ce que j'étais, ce que je resterai jusqu'au dernier souffle. Comme je te l'ai dit dans ma lettre d'avant-hier, il faut que, fort de nos consciences, nous nous élevions au-dessus de tout, mais avec cette volonté ferme, inflexible, de faire éclater mon innocence aux yeux de la France entière. Il faut que notre nom sorte de cette horrible aventure telle qu'il était quand on l'y a fait entrer. Il faut que nos enfants entrent dans la vie la tête haute et fière. Quant aux conseils que je puis te donner, que je t'ai développés dans mes lettres précédentes, tu dois bien comprendre que les seuls conseils que je puisse te donner sont ceux que me suggère mon cœur. Tu es, vous êtes tous mieux placés, mieux conseillés pour savoir ce que vous avez à faire. Je souhaite avec toi que cette situation atroce ne tarde pas trop à s'éclaircir, que nos souffrances à tous aient bientôt un terme. Quoi qu'il en soit, il faut avoir cette foi qui fait diminuer toutes les souffrances, surmonter toutes les douleurs, pour arriver à rendre à nos enfants un nom sans tache, un nom respecté. Alfred. La lettre de ma femme que je reçus le 5 octobre 1896 était une lettre datée du 13 août, la seule qui me parvint de toutes les lettres que m'écrivait ma femme durant ce mois. J'en extrais ce simple passage. Paris, 13 août 1896. Je reçois à l'instant ta lettre du 6 juillet, et c'est les yeux encore tout gonflés de larmes que je t'écris. Pauvre, pauvre chère Marie, quel calvaire tu supportes, à quel martyre tu es soumis. C'est tellement atroce, tellement épouvantable que cette pensée seule m'affole. Lucie. En novembre, je ne reçus pas une seule des lettres que ma femme m'écrivit en septembre. Elle ne me parvint jamais. En décembre, je reçus parmi toutes les lettres du mois d'octobre de ma femme une seule lettre, celle du 10 octobre, dont voici un extrait. Paris, 10 octobre 1896. J'attends, avec une bien vive anxiété des lettres de toi. Songe que je n'ai pas de tes nouvelles depuis le 9 août, c'est-à-dire depuis près de 2 mois et demi. Ce sont de longues semaines d'inquiétude, celles qui s'écoulent entre chaque courrier, et chaque jour de retard m'apporte d'autres angoisses. Lucie. Le 4 janvier 1897, j'écrivis à ma femme. Île du Salut, 4 janvier 1897. Je viens de recevoir tes lettres de novembre, ainsi que celles de la famille. L'émotion profonde qu'elles me causent est toujours la même, indescriptible. Comme toi, ma chère Lucie, ma pensée ne te quitte pas. Ne quitte pas nos chers enfants, vous tous, et quand mon cœur n'en peut plus, est à bout de force pour résister à ce martyr qui broie le cœur sans s'arrêter, comme le grain sous la meule, qui déchire tout ce qu'on a de plus noble, de plus pur, de plus élevé, qui brise tous les ressorts de l'âme, je me crée à moi-même toujours les mêmes paroles. Si atroce que soit ton supplice, marche encore afin de pouvoir mourir tranquille, sachant que tu laisses à tes enfants un nom honoré, un nom respecté. Mon cœur, tu le connais, il n'a pas changé. C'est celui d'un soldat, indifférent à toutes les souffrances physiques, qui met l'honneur avant, au-dessus de tout, qui a vécu, qui a résisté à cet effondrement effroyable, invraisemblable, de tout ce qui fait le français, l'homme, de ce qui seul enfin permet de vivre, parce qu'il était père, et qu'il faut que l'honneur soit rendu au nom que portent nos enfants. Je t'ai écrit longuement déjà. J'ai essayé de te résumer lucidement, de t'exposer pourquoi ma confiance, ma foi était absolue, aussi bien dans les efforts des uns que dans ceux des autres, car, crois-le bien, ayant l'absolue certitude, l'appel que j'ai encore fait au nom de nos enfants crée un devoir auquel des hommes de cœur ne se soustraient jamais. D'autre part, je connais trop tous les sentiments qui vous animent pour penser jamais qu'il puisse y avoir un moment de lassitude chez aucun, tant que la vérité ne sera pas découverte. Donc, tous les cœurs, toutes les énergies vont converger vers le but suprême, courir sus à la bête jusqu'à ce qu'elle soit forcée, l'auteur ou les auteurs de ce crime infâme. Mais hélas, comme je te l'ai dit aussi, si ma confiance est absolue, les énergies du cœur, celles du cerveau, ont des limites. Dans une situation aussi atrocement épouvantable, supportée depuis si longtemps. Je sais aussi ce que tu souffres, et c'est horrible. Or, il n'est pas en ton pouvoir d'abréger mon martyr, le nôtre. Le gouvernement seul possède des moyens d'investigation assez puissants, assez décisifs pour le faire, s'il ne veut pas qu'un Français, qui ne demande à sa patrie que la justice, la pleine lumière, toute la vérité sur ce lugubre drame, qui n'a plus qu'une chose à demander à la vie, voir encore, pour ses chers petits, le jour où l'honneur leur sera rendu, ne succombe sous une situation aussi écrasante pour un crime abominable qu'il n'a pas commis. J'espère donc que le gouvernement aussi t'apportera son concours. Quoi qu'il en soit de moi, je ne puis donc que te répéter de toutes les forces de mon âme d'avoir confiance, d'être toujours courageuse et forte, et t'embrasser de tout mon cœur, de toutes mes forces, comme je t'aime, ainsi que nos chers et adorés enfants. Alfred. J'extrais des lettres que je reçus de ma femme à cette date les passages qui suivent. Paris, 12 novembre 1896. je viens de recevoir tes bonnes lettres des 3 et 5 octobre. Je suis encore tout impressionnée et heureuse de m'être laissée aller quelques instants à l'émotion si douce que me causent tes paroles. Je t'en prie, mon mari bien-aimé, ne pense pas à ma douleur, aux souffrances que je puis endurer. Comme je te l'ai déjà dit, ma personnalité n'est que secondaire, et je serais navrée d'ajouter encore par mes plaintes une douleur de plus à tes tortures. Ne te préoccupe donc pas de moi. Tu as besoin de toutes tes forces, de tout ton courage, pour résister à cette lutte morale si pénible, si dure, pour ne pas te laisser déprimer par la fatigue physique, par le climat, par les privations de toutes sortes qui te sont imposées. Paris, 24 novembre 1895. Je voudrais pouvoir venir causer avec toi tous les jours, mais à quoi bon répéter constamment les mêmes choses? Je sais très bien que mes lettres se ressemblent, qu'elles sont toutes imprégnées de la même idée, l'unique idée qui nous occupe tous, celle dont dépendent nos vies, celle de nos enfants, l'avenir de toute une famille. Comme toi, je ne puis m'attacher qu'à une chose, à ta réhabilitation. Je ne poursuis qu'un but, celui de te faire rendre ton honneur. En dehors de cette pensée fixe qui me hante, rien ne m'intéresse, rien ne me touche. Lucie. Puis en février. Paris, 15 décembre 1896. J'espérais recevoir ce mois encore quelques bonnes lettres de toi. Je me réjouissais de lire une bonne causerie. N'ayant rien reçu, j'ai repris tes lettres du mois d'octobre. Je les ai lues et relues. Paris, 25 décembre 1896. Une fois encore, je vais remettre le courrier pour qu'il te soit envoyé, avec l'amer chagrin de ne pouvoir te donner encore la nouvelle que tu désires, que nous attendons avec tant d'anxiété, celle de ta réhabilitation. Je sais que ce sera pour toi une nouvelle déception, une prolongation de tes souffrances. C'est pourquoi j'en suis doublement navrée. Pauvre ami, j'ai des angoisses affreuses, des serrements de cœur épouvantables devant ton supplice que toutes nos activités, nos volontés ne peuvent abréger. Lucie. Au mois de mars 1897, on me fit attendre jusqu'au 28 du mois la remise des lettres du mois de janvier de ma femme. Pour la première fois, ces lettres m'étaient transmises seulement en copie. Jusqu'à quel point le texte, écrit par une main banale, représente-t-il le texte original? C'est ce que je ne saurais dire. Je ressentis vivement ce nouvel outrage, venant après tant d'autres, et j'en fus blessée jusqu'au plus profond de mon âme, mais rien ne put amoindrir ma volonté. J'écrivis à ma femme. Île du Salut, 28 mars 1897. Après une longue et anxieuse attente, je viens de recevoir la copie de deux lettres de toi du mois de janvier. Tu te plains de ce que je ne t'écris plus longuement. Je t'ai écrit de nombreuses lettres fin janvier. Peut-être te seront-elles parvenues maintenant. Et puis, les sentiments qui sont dans nos cœurs, qui régissent nos âmes, nous les connaissons. D'ailleurs, nous avons épuisé, tous deux, nous tous enfin, la coupe de toutes les souffrances. Tu me demandes encore, ma chère Lucie, de te parler longuement de moi. Je ne le puis, hélas. Lorsqu'on souffre aussi atrocement, quand on supporte de telles misères morales, il est impossible de savoir la veille où l'on sera le lendemain. Tu me pardonneras aussi si je n'ai pas toujours été stoïque, si souvent je t'ai fait partager mon extrême douleur, à toi qui souffrais déjà tant. Mais c'était parfois trop, et j'étais trop seule. Mais aujourd'hui comme hier, arrière toutes les plaintes, toutes les récriminations. La vie n'est rien. Il faut que tu triomphes de toutes tes douleurs, quelles qu'elles puissent être, de toutes tes souffrances, comme une âme humaine très haute et très pure qui a un devoir sacré à remplir. Sois invinciblement forte et vaillante, les yeux fixés droit devant toi, vers le but, sans regarder ni à droite ni à gauche. Ah, je sais bien que tu n'es aussi qu'un être humain. Mais quand la douleur devient trop grande, si les épreuves que l'avenir te réserve sont trop fortes, regarde nos chers enfants et dis-toi qu'il faut que tu vives, qu'il faut que tu sois là, leur soutien, jusqu'au jour où la patrie reconnaîtra ce que j'ai été, ce que je suis. Mais ce que je veux te répéter de toutes les forces de mon âme, de cette voix que tu devras toujours entendre, c'est courage et courage. Ta patience, ta volonté, les nôtres, ne devront jamais se lasser jusqu'à ce que la vérité tout entière soit révélée et reconnue. Ce que je ne saurais assez mettre dans mes lettres, c'est tout ce que mon cœur contient d'affection pour toi, pour tous. Si j'ai pu résister jusqu'ici à tant de misère morale, c'est que je puisais cette force dans ta pensée, dans celle des enfants. Alfred. Des deux lettres de ma femme copiées par une main banale, reçues seulement le 28 mars, j'extrais le passage suivant. Paris, 1er janvier 1897. Aujourd'hui, plus particulièrement encore, j'ai besoin de venir auprès de toi, de me rapprocher, de m'entretenir de nos chagrins comme aussi de nos espérances. Cette journée plus triste, par cela même qu'elle me rappelle d'excellents souvenirs bien lointains déjà, je voudrais la passer tout entière à causer avec toi. Elle me semblerait moins longue, moins amère. Je ne saurais exprimer à nouveau des vœux répétés si souvent et depuis si longtemps. J'appelle de toutes mes forces le moment si tardif où nous pourrons enfin vivre en paix, où je pourrai te rendre un nom honoré, où je pourrai te serrer dans mes bras. Espérons que cette nouvelle année nous apportera la réalisation de nos vœux. Dans l'attente continuelle dans laquelle je vis, tes lettres seules peuvent m'apporter un peu de détente. C'est quelque chose de toi, c'est une petite parcelle de ta pensée qui vient me retrouver, me consoler pendant un long mois. Lucie. Je n'avais pu me rendre compte, par les quelques lettres copiées que j'avais reçues, des événements qui se passaient vers cette époque en France. Je les rappelle sommairement. L'article de l'Éclair du 15 septembre 1896, révélant la communication au juge seul, dans la salle des délibérations, d'une pièce secrète. La courageuse initiative de Bernard Lazare, publiant en novembre 1896 sa brochure « Une erreur judiciaire ». La publication par le matin du 10 novembre 1896 du fac-similé du bordereau. L'interpellation Castelin du 18 novembre à la Chambre des députés. Je n'appris ces événements qu'à mon retour en 1899. Ni ma femme, ni personne en dehors du ministère de la guerre ne connaissait alors la découverte du véritable traître par le lieutenant-colonel Picard. L'héroïque conduite de cet admirable officier et les criminelles manœuvres qui l'empêchèrent d'aboutir dans l'œuvre de vérité et de justice. Puis, les lettres originales reprennent. En avril, je reçus une seule lettre de ma femme, celle du 20 février, dont je donne un extrait. J'appris par cette lettre que mes lettres étaient également transmises en copie. Paris, 20 février 1897. J'ai eu la joie de recevoir une bonne et nouvelle lettre de toi. J'en suis encore toute heureuse, bien qu'il ne m'ait été communiqué qu'une copie. C'est toujours une grande satisfaction pour moi que de voir ton écriture. Il me semblait que je tenais ainsi une parcelle de toi. Une copie supprime tout le caractère intime de la lettre et vous ôte l'impression que peut seul donner le travail machinal et tout personnel qui accompagne la pensée. C'est cette impression qui me manque lorsque la lettre est copiée par une main indifférente et se met une des choses les plus pénibles parmi tous les chagrins secondaires que j'ai eu à subir. Lucie. En mai, j'écrivais à ma femme. Île du Salut, 4 mai 1897. Je viens de recevoir ton courrier de mars, celui de la famille, et c'est toujours avec la même émotion poignante, avec la même douleur que je te lis, que je vous lis tous, tant nos cœurs sont blessés, déchirés par tant de souffrances. Je t'ai déjà écrit il y a quelques jours, en attendant tes chères lettres, et je te disais que je ne voulais ni chercher, ni comprendre, ni savoir pourquoi l'on me faisait succomber ainsi sous tous les supplices. Mais si dans la force de ma conscience, dans le sentiment de mon devoir, j'ai pu m'élever ainsi au-dessus de tout, étouffer toujours et encore mon cœur, éteindre toutes les révoltes de mon être, il ne s'ensuit pas que mon cœur n'ait profondément souffert, que tout, hélas, ne soit en lambeaux. Mais aussi je t'ai dit qu'il n'entrait jamais un moment de découragement dans mon âme, qu'il n'en doit pas plus entrer dans la tienne, dans les vôtres à tous. Oui, il est atroce de souffrir ainsi. Oui, tout cela est épouvantable et déroute toutes les belles croyances en ce qui fait la vie noble et belle. Mais aujourd'hui, il ne saurait y avoir d'autre consolation pour les uns comme pour les autres que la découverte de la vérité, la pleine lumière. Quelle que soit donc ta douleur, quelles que puissent être vos souffrances à tous, dis-toi qu'il y a un devoir sacré à remplir que rien ne saurait ébranler. Ce devoir est de rétablir un nom dans toute son intégrité aux yeux de la France entière. Maintenant, te dire tout ce que mon cœur contient pour toi, pour nos enfants, pour vous tous, c'est inutile, n'est-ce pas? Dans le bonheur, on ne s'aperçoit même pas de toute la profondeur, de toute la puissance de tendresse qui réside au fond du cœur pour ce que l'on aime. Il faut le malheur, le sentiment des souffrances qu'endurent ceux pour qui l'on donnerait jusqu'à la dernière goutte de son sang, pour en comprendre la force, pour en saisir la puissance. Si tu savais combien j'ai dû appeler à mon aide, dans les moments de détresse, ta pensée, celle des enfants, pour me forcer à vivre encore, pour accepter ce que je n'aurais jamais accepté sans le sentiment du devoir. Et cela me ramène toujours à cela, ma chérie. Fais ton devoir héroïquement, invinciblement, comme une âme humaine très haute et très fière, qui est mère et qui veut que le nom qu'elle porte, que portent ses enfants, soit lavé de cette horrible souillure. Donc, à toi comme à tous, toujours et encore, courage et courage. Alfred. Quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus à cette date. Paris, 5 mars 1897. Je voulais attendre pour venir causer avec toi l'arrivée de ton courrier. Mais je ne puis tenir d'impatience. Je suis incapable de m'imposer un supplice aussi long. J'ai besoin de me détendre, de venir près de toi, de réchauffer mon cœur auprès du tien, et de ne pas me concentrer sans un instant de repos dans la pensée affolante de cette longue, interminable séparation. Quand je t'écris, au moins, j'ai quelques instants d'illusion. La plume, l'imagination, l'attention de la volonté me transportent près de toi, là, tout près, comme je voudrais être, te soutenant, te consolant, te rassurant sur l'avenir, et t'apportant tout l'espoir que mon cœur contient renfermé et que je voudrais tant te communiquer. C'est un moment bien fugitif, mais ce bonheur d'être auprès de toi, je le possède ainsi quelques instants, et je me sens revivre. Lucie. Paris, 16 mars 1897. J'étais venue causer avec toi il y a quelques jours. J'étais alors dans l'angoisse de l'attente de nouvelles. Je les ai reçues, ces chères lettres, si attendues, si ardemment désirées. Depuis, je me pénètre de tes paroles, je me lasse pas de te relire. Ce sont mes seuls bons instants, ceux que je vis un peu plus près de toi. Comme le mois dernier, je n'ai pas eu la joie de voir ton écriture. C'est une copie qui m'a été transmise, et tu peux t'imaginer ce que mon cœur saigne d'être privé de cette seule consolation, qui, jusqu'à cet été, ne m'avait pas été refusée. Quel chemin d'amertume et de douleur nous avons à traverser. Ce sont de petites choses qu'on devrait passer sous silence si on les compare à la grandeur de notre tâche. Mais pour des natures sensibles, toutes ces blessures n'en sont pas moins cuisantes. Puisqu'il le faut, ne nous arrêtons pas à cela. Et puisque nous sommes, malheureusement, appelés à remplir un devoir sacré, par respect pour notre nom, pour celui que portent nos enfants, élevons-nous à la hauteur de notre mission, et ne nous abaissons pas à envisager toutes ces misères. Si nous sommes anéantis par le chagrin, ayons au moins la satisfaction du devoir accompli. Raidissons-nous dans la tranquillité de notre conscience et gardons toute notre énergie, toute notre force pour mener à bien notre réhabilitation. Lucie. En juin 1897, eut lieu une alerte qui eût pu avoir les suites les plus tragiques. Les consignes disaient qu'à la moindre démonstration de ma part, ou de celle de l'extérieur, pour une tentative d'évasion, je courrais risque même de la vie. Le surveillant de garde devait, même par les moyens les plus décisifs, prévenir l'enlèvement ou l'évasion. On comprend donc combien étaient dangereuses, avec de pareilles consignes, les alertes causées dans le service du personnel préposé à ma garde. Ces consignes étaient d'ailleurs odieuses, car je ne pouvais être rendu responsable d'une tentative venant de l'extérieur, si elle se fût produite, à laquelle je s'étais totalement étranger. Le 6 juin, vers 9 heures du soir, une fusée fut lancée de l'île Royale. On prétendit qu'une goélette avait été aperçue dans le golfe formé par l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Le commandant du pénitencier donna l'ordre de tirer dessus à blanc et de prendre des postes de combat. Lui-même vint renforcer, avec un personnel supplémentaire, le détachement de l'île du Diable. J'étais couché et enfermé dans ma case avec le surveillant de garde, comme d'habitude chaque nuit. Je fus réveillé en sursaut par les coups de canon, suivi de coups de fusil, et je vis le surveillant de garde, les armes prêtes, me regarder fixement. Je demandai « Qu'y a-t-il ?» Le surveillant de garde ne me répondit pas, mais comme je ne me préoccupais pas des incidents qui se passaient autour de moi, la pensée tendue vers un seul but, mon honneur, je m'étendis de nouveau sur mon lit. Heureusement peut-être. Le surveillant de garde avait des consignes rigoureuses, et l'on peut se demander s'il n'eût pas tiré sur moi, si, surpris par ces bruits insolites, je m'étais jeté à bas du lit. Le 10 août 1807, j'écrivis à ma femme. Je viens de recevoir, à l'instant, tes trois lettres du mois de juin, toutes celles de la famille, et c'est sous l'impression pourtant aussi vive, aussi poignante, qu'évoquent en moi tant de doux souvenirs, tant d'aussi épouvantables souffrances, que je veux y répondre. Je te dirai encore une fois, d'abord, toute ma profonde affection, toute mon immense tendresse, toute mon admiration pour ton noble caractère. Je t'offrirai aussi toute mon âme, et je te dirai ton devoir, ton droit, ce droit que tu ne dois abandonner que devant la mort. Et ce droit, ce devoir imprescriptible, aussi bien pour mon pays que pour toi, que pour vous tous, c'est de vouloir la lumière pleine et entière sur cet horrible drame. C'est de vouloir sans faiblesse, comme sans jactance, mais avec une énergie indomptable, que notre nom, le nom que portent nos chers enfants, soit lavé de cette horrible souillure. Et ce but, tu dois, vous devez l'atteindre en bon et vaillant Français qui souffre le martyre, mais qui, ni les uns ni les autres, quels qu'aient été les outrages, les amertumes, n'ont jamais oublié un seul instant leur devoir envers la patrie. Et le jour où la lumière sera faite, où toute la vérité sera découverte, et il faut qu'elle le soit, ni le temps, ni la patience, ni la volonté ne doivent compter devant un but pareil. Eh bien, si je ne suis plus là, il t'appartiendra de laver ma mémoire de ce nouvel outrage, aussi injuste que rien n'a jamais justifié. Et je le répète, quelles qu'aient été mes souffrances, si atroces qu'aient été les tortures qui m'ont été infligées, tortures inoubliables, et que les passions qui égarent parfois les hommes peuvent seules excuser, je n'ai jamais oublié qu'au-dessus des hommes, qu'au-dessus de leurs passions, qu'au-dessus de leurs égarements, il y a la patrie. C'est alors à elle qu'il appartiendra d'être mon juge suprême. Être un honnête homme ne consiste pas seulement à ne pas être capable de voler 100 sous dans la poche de son voisin. Être un honnête homme, dis-je, c'est pouvoir toujours se mirer dans ce miroir qui n'oublie pas, qui voit tout, qui connaît tout. Pouvoir se mirer en un mot dans sa conscience, avec la certitude d'avoir toujours et partout fait son devoir. Cette certitude, je l'ai. Donc, chère et bonne Lucie, fais ton devoir, courageusement, impitoyablement, en bonne et vaillante Française qui souffre le martyre, mais qui veut que le nom qu'elle porte, que portent ses enfants, soit lavé de cette épouvantable souillure. Il faut que la lumière soit faite, qu'elle soit éclatante. Le temps ne fait plus rien à l'affaire. D'ailleurs, je sais trop bien que les sentiments qui m'animent vous animent tous. Nous sommes communs à tous, à ta chère famille comme à la mienne. Te parler des enfants, je ne le puis. D'ailleurs, je te connais trop bien pour douter un seul instant de la manière dont tu les élèves. Ne les quitte jamais. Sois toujours avec eux de cœur et d'âme. Écoute-les toujours, quelque importune que puisse être leur question. Comme je te l'ai dit souvent, élever ces enfants ne consiste pas seulement à leur assurer la vie matérielle et même intellectuelle, mais à leur assurer aussi l'appui qu'ils doivent trouver auprès de leurs parents, la confiance que ceux-ci doivent leur inspirer, la certitude qu'ils doivent toujours avoir de savoir où épancher leur cœur, où trouver l'oubli de leur peine, de leur déboire, si petits, si naïfs qu'ils paraissent parfois. Et dans ces dernières lignes, je voudrais encore mettre toute ma profonde affection pour toi, pour tes chers enfants, pour tes chers parents, pour vous tous enfin, tous ceux que j'aime du plus profond de mon cœur, pour tous nos amis dont je devine, dont je connais le dévouement inaltérable, te dire et te redire encore courage et courage, que rien ne doit ébranler ta volonté, qu'au-dessus de ma vie plane le souci suprême, celui de l'honneur de mon nom, du nom que tu portes, que portent nos enfants. T'embraser du feu ardent qui anime mon âme, feu ardent qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. Alfred. Depuis la construction des palissades autour de ma case, celle-ci était devenue complètement inhabitable. C'était la mort. À partir de ce moment, il n'y eut plus ni air ni lumière. La chaleur y était torride, étouffante, pendant la saison sèche. Pendant la période des pluies, le logement était très humide, dans ce pays où l'humidité est un des plus grands fléaux de l'Européen. J'étais totalement épuisée, non pas seulement par le manque d'exercice, mais par l'influence pernicieuse du climat. La construction d'une nouvelle case fut décidée sur le rapport du médecin. Pendant le mois d'août 1897, la palissade du promenoir fut démolie pour être affectée à la palissade de la nouvelle case. Je fus de nouveau enfermée durant cette période.